Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la place des questions énergétiques dans la géopolitique mondiale. Nous retrouvons nos invités en duplex depuis les studios de la RTBF à Bruxelles. Samuel Furfari, professeur de géopolitique à l'Université libre de Bruxelles, et Thierry Brosse, spécialiste des questions énergétiques. Samuel Furfari, on a quitté la première partie de l'émission sur la question de l'exploitation ou de la non-exploitation en Europe du gaz de Rochemer et du pétrole de Rochemer, mais surtout il est question du gaz parce que des accords lient l'Europe notamment avec en particulier la Russie. Et on a vu récemment le secrétaire général de l'OTAN, monsieur Rasmussen, dire de façon plus ou moins claire, mais je crois plus que moins, que la compagnie russe Gazprom se trouvait derrière le mouvement environnementaliste opposé à l'exploitation de gaz de Rochemer en Europe. Vous confirmez ?
Je n'ai pas d'éléments pour confirmer, je ne suis pas dans l'investigation, mais c'est quelque chose qui était très connu dans le milieu de l'énergie. Ça se disait couramment. Depuis plusieurs années, dans les réunions, ça se dit de manière très claire que, bon, il y a des intérêts économiques énormes, bien entendu, derrière l'énergie, et que ceux qui ont des potentiels d'exportation de gaz gigantesques comme Gazprom, ben, n'ont qu'un intérêt à ce qu'il y ait d'autres concurrents qui viennent se placer sur le marché. Et M. Rasmussen a eu un grand courage politique, pour le dire de manière ouverte. Et M. Brosse le disait tout à l'heure, c'est vrai que les Russes, pendant des années, ont répété le gaz de Rochemer est une bulle, et puis tout d'un coup, ils se sont aperçus que, bon, de toute façon, la course était perdue, ils s'intéressent maintenant au gaz de Rochemer, et surtout, maintenant, ils viennent dire, vous savez, nous sommes les champions en pétrole de Rochemer. Et c'est sans doute vrai, ils peuvent être les champions en matière de pétrole de Rochemer, mais que ce soit les Russes, les Américains, les Chinois, les Argentins, les Mexicains, les Canadiens, il est clair que nous passons d'un centre d'intérêt sur le Moyen-Orient vers une dispersion de ce centre d'intérêt. Et c'est ça qui est fondamental. Non seulement on a une abondance d'énergie hydrocarbures, pétrole et gaz, mais en plus, ce n'est pas au Moyen-Orient. Eh bien, voilà, c'est pas étonnant que toute la géopolitique du monde est en train d'être chamboulée.
Thierry Brosse.
Alors moi, je voudrais juste rajouter sur cette question-là qu'en fait, je pense quand même que la question fondamentale, c'est celle du coût de production. Or, ce coût de production du gaz non conventionnel en Europe, on ne le connaît pas, puisqu'on n'a pas fait les tests. En sachant en plus que, contrairement aux États-Unis, il y aura une composante environnementale plus élevée en Europe. Donc, effectivement, on n'a pas cette connaissance-là. Et donc, je pense que, on peut évoquer différentes pistes, mais je pense que tant qu'on n'a pas une analyse de coût, on ne peut pas savoir si on va le produire ou pas. J'évoquais tout à l'heure qu'il va y avoir du gaz et du pétrole qui doit rester en terre. Si on regarde ça du côté des consommateurs, l'intérêt des consommateurs, c'est qu'on laisse en terre le pétrole et le gaz le plus cher. Et qu'on produise le moins cher possible. Et donc, effectivement, pour le gaz, on voit que le gaz non conventionnel aujourd'hui, le non conventionnel russe, est toujours le moins cher. Pour le pétrole, c'est pas forcément le cas. Ou du moins, avec les prix que l'on voit sur les marchés du pétrole, on voit que le pétrole non conventionnel, qu'il soit américain ou qu'il soit russe, est profitable au prix actuel.
Samuel Furfari.
Je ne voudrais pas embêter les auditeurs avec des questions trop techniques ou des prix ou des chiffres. Mais le problème du gaz, c'est que c'est un gaz. Il faut le rappeler. L'avantage du pétrole, c'est qu'il est liquide. L'inconvénient du gaz, c'est que c'est du gaz. Ce qui veut dire que le transport du gaz pénalise fortement son coût. Si on parvient à produire du gaz sans devoir le transporter, eh bien on est gagnant. C'est pour ça que le gaz de Rochemer a du potentiel en Europe, parce que même s'il va coûter beaucoup plus cher qu'aux États-Unis, c'est vrai, à cause de la géologie et diverses raisons qu'a dit M. Brosse, ça sera de toute façon moins cher que de le transporter de Russie ou du Qatar ou même des États-Unis. Parce que le problème du gaz, c'est le coût du transport. Donc, essayons de voir si on a du pétrole et du gaz de Rochemer chez nous, et voyons si on peut le produire. Ça sera certainement moins cher que d'importer du GNL ou du gaz de Russie.
Thierry Brosse ?
Je suis tout à fait d'accord, essayons de voir. Mais encore une fois, ça sera de toute façon moins cher, c'est pas complètement sûr. Et encore une fois, dans la guerre des prix, il peut y avoir une guerre des prix. On peut voir des prix du gaz, comme on le voit aujourd'hui, avec la crise ukrainienne, qui baisse très fortement.
Oui, et aujourd'hui, je conviens. Les Russes peuvent casser tout le marché, oui. Y compris celui américain. Ils voilà. Ont tellement de réserves et tellement de marges qu'ils peuvent réduire drastiquement leur prix du gaz. C'est un des dangers, bien entendu, en la matière. Mais c'est de toute façon bon. parce que le prix du gaz qui va chuter, ben ça c'est très bon pour notre économie, parce que n'oublions pas qu'une des grosses difficultés de la politique européenne, c'est justement que nous avons un prix de l'énergie qui est trop élevé par rapport au reste du monde. Donc si, grâce à cette petite production de gaz de Rochemer en Europe, on parvenait à faire chuter le prix que les Russes nous vendent leur gaz, mais nous sommes doublement gagnants.
Et en tout cas, pour l'instant, l'Europe reste plutôt statique. C'est ce que j'ai compris de ce que vous venez de nous dire l'un et l'autre. Samuel Furfari, vous parliez tout à l'heure de réoccidentalisation du monde de l'énergie. J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur l'impact de ce qu'on développe depuis le début de cette émission sur l'exploitation de gaz et de pétrole de Rochemer. Quel impact sur les pays traditionnellement producteurs, quel impact sur les pays de l'OPEP? Est-ce que c'est la fin de l'OPEP? Évidemment, il y a une révision de la stratégie des pays, notamment et en particulier de la péninsule arabique qui s'impose, parce que de fait, la valeur de leurs ressources va baisser, ce qui ne va pas être sans conséquence sur les populations. Samuel Furfari.
Oui, il faut savoir qu'aux États-Unis, le niveau de production de pétrole d'aujourd'hui, c'est celui de 1988. Chaque année, ces trois dernières années, les États-Unis ont augmenté d'un million de barils par jour leur production, chaque année. C'est-à-dire qu'en trois ans, ils ont augmenté de 3 millions de barils par jour. C'est l'équivalent de la production de l'Irak. En trois ans, les États-Unis ont ajouté un nouvel Irak chez eux. C'est énorme. Et le Mexique, qui jusqu'à présent avait une entreprise nationale et dont le président Nieto a fait campagne pour inviter les compagnies internationales à venir dynamiser le secteur pétrolier et gazier chez lui, se prépare à en faire autant, et le Canada est déjà en route. Le Canada est en train de tourner le monde entier pour voir où il peut vendre son excès de pétrole et de gaz. Mais c'est gigantesque comme révolution, ce qui veut dire que le Moyen-Orient restera toujours incontournable et important. Les réserves de l'Arabie Saoudite, de l'Irak, de l'Iran sont gigantesques, et elles le resteront. Mais ça change notre position géopolitique. On n'est plus là pour faire joujou avec l'OPEP ou les Moyen-Orient. On a maintenant des cartes en main pour jouer une partie qui est beaucoup plus équilibrée. Et on le voit bien avec ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui. Je prétends d'ailleurs que la réunion de Genève de novembre dernier, où il y a eu le début d'un dialogue avec l'Iran, est l'acte de baptême de cette nouvelle contre-révolution énergétique. L'Iran a compris que ces 10% de réserves mondiales de pétrole et ces 15% de réserves mondiales de gaz conventionnel ne lui permettent plus d'avoir la place hégémonique qu'il espérait avoir en matière de géopolitique dans le monde. Et c'est fini, on a tourné la page.
L'Iran qui, Thierry Bros, inquiète beaucoup la Russie.
Oui, alors un autre chiffre peut-être sur le plus grand champ gazier aux productions au monde en ce moment, c'est un champ non conventionnel aux États-Unis. Hein. Donc effectivement, ce qu'évoquait Samuel est tout à fait exact. Et je suis d'accord avec Samuel Fafari sur le fait que l'Iran, qui détient effectivement 18% des réserves de gaz, et la production iranienne ne compte que pour 5% de la production mondiale, effectivement l'Iran est contraint de revenir à la table de négociation puisque leur ressource a de moins en moins de valeur s'ils attendent trop. Sur cet élément-là, je suis d'accord. La Russie, effectivement, si on regarde les problématiques russes, ils sont devenus le deuxième producteur de gaz au monde après les États-Unis. On leur a pris leur première place à partir des années 2010. Mais je pense que les Russes ne referont pas la même erreur dans le pétrole non conventionnel que dans le gaz non conventionnel, et que les Russes vont effectivement essayer d'augmenter aussi leur production pétrolière grâce au pétrole non conventionnel. Et donc, ceux qui vont devoir réduire leur production, c'est finalement les pays de l'OPEP et en particulier l'Arabie Saoudite.
Alors, pour ce qui est des nouveaux acteurs, Samuel Furfari, vous en évoquiez quelques-uns. On parle beaucoup du Canada, du Mexique, du Brésil, en Afrique, le Mozambique, l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie, la Tanzanie, la Somalie, le Ghana, Madagascar aussi. Et puis, je reviens en Amérique latine, pardon pour ce détour, l'Argentine, très prometteuse. Et puis également l'Australie. Alors, là aussi, dans le registre, et j'en reviens peut-être aussi à ma question précédente, il y a forcément des gagnants et des perdants. Et puis, au-delà de cela, est-ce qu'on peut parler de fin des énergies durables? Samuel Fofari.
Votre liste de pays est impressionnante, Madame Chatin. Et c'est vrai que c'est partout dans le monde qu'il y a cette course. Et vous le disiez tout à l'heure, mais je crois qu'il faut réinsister, c'est quand même cette nouvelle opportunité qu'offre le droit de la mer de pouvoir exploiter une zone économique exclusive large de 370 km qui change la donne aussi pour les pays côtiers. Et ça, c'est extraordinaire. Mais cette abondance d'énergie fossile ne veut pas dire que c'est la fin des énergies renouvelables. C'est sans doute la fin des énergies renouvelables trop subventionnées. Ça, peut-être, peut-être même certainement. Parce que le problème n'est pas d'avoir des positions manichéennes. Nous avons toujours eu des énergies renouvelables en Europe. On a commencé à développer la production d'électricité aussi massivement grâce à l'hydraulique. C'est quand même une source d'énergie renouvelable très compétitive et qui se développe dans le monde entier.
Et en particulier en Afrique.
Et en particulier en Afrique, vous avez tout à fait raison. Il y a énormément de projets qui sont en cours, et même au Portugal, il y a encore des projets qui sont en cours, qui viennent d'être signés. Donc, il n'y a pas de position manichéenne. Nous avons tellement besoin d'énergie dans le monde qu'il faut faire ce qui est possible pour produire de l'énergie là où il y en a. Évidemment, de manière compétitive et de manière en respectant l'environnement. Mais c'est pas tout ou rien. Dire qu'on va passer à tout renouvelable ou bien tout pétrole, c'est pas ainsi que le monde fonctionne. Le monde fonctionne avec une recherche de prospérité économique, de qualité de vie, et pour cela, il nous faut plus d'énergie. Et pour avoir plus d'énergie, ben, il faut exploiter toutes les énergies à disposition.
Thierry Brosse.
Alors, les perdants dans le gaz, si je peux me permettre, on les connaît déjà. Ce sont les grands champs trop chers. Hein, c'est ce que disait Samuel Furfari. C'est qu'effectivement, il faut que ça soit fait à un coût acceptable par le consommateur. Et donc, effectivement, on peut en lister quelques-uns. Le champ de Stockman en Russie, les projets de gaz naturel liquéfié en Israël, les projets, les nouveaux projets, vous avez évoqué l'Australie, effectivement. Mmh. Il y a un grand nombre de projets qui sont en ce moment en construction. Mais les futurs projets australiens, ceux qui n'ont pas commencé leur construction, ne verront manifestement pas le jour parce qu'ils sont trop coûteux. Je pense aussi qu'aujourd'hui, on a une course à la production, puisque si on est sous un principe où la ressource vaudra moins cher demain qu'aujourd'hui, ben vous avez intérêt à la produire le plus vite possible. Et c'est le modèle américain, d'ailleurs, qui gagne. Pour votre question sur les renouvelables, je pense que les renouvelables, quand ils sont, et il y en a qui commencent à l'être compétitifs avec le reste, doivent rentrer et doivent être de plus en plus raccordés au réseau. Et on peut aussi quand même imaginer qu'il faut regarder l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire que s'il y a de plus en plus d'hydrocarbures que l'on peut produire, il y a en plus de moins en moins de demandes énergétiques dans les pays de l'OCDE. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant.
Parce que une activité économique réduite, c'est cela qu'il faut entendre.
Pas seulement, il y a aussi l'efficacité énergétique.
Nous
sommes dans la course à l'efficacité énergétique depuis longtemps et nous avons des résultats. Je voudrais insister aussi sur le fait que le principal défi que nous avons en matière d'efficacité énergétique, c'est l'économie d'énergie dans nos bâtiments. Nous avons des bâtiments très énergivores. Il faut donc progressivement corriger tout cela. Ça prend du temps, mais les consommations d'énergie vont chuter. Le deuxième secteur où ça va chuter, c'est dans le secteur des transports. Si vous avez gardé votre voiture pendant 10 ans, ben vous êtes surpris de voir votre nouvelle voiture qu'elle consomme nettement moins. Pourquoi ? Parce qu'il y a des évolutions technologiques, bien entendu. Donc, c'est vrai, ce que me dit Monsieur Brosse, nous allons vers une asymptote au point de vue consommation d'énergie dans le monde occidental, certainement en Europe, et peut-être même une diminution. Et donc tout cela, c'est bon, bien entendu, pour notre économie.
Thierry Brosse.
Oui, pour tordre le cou à cette analyse que vous évoquiez, qui est effectivement, ça vient de la récession, pas forcément, puisqu'on se regarde la consommation d'énergie primaire, c'est-à-dire l'ensemble des énergies qu'on a consommées en Europe, eh bien on voit que le pic a été atteint en 2006. Et que depuis 2006, on décline. Et pour la France, c'était 2005. Donc, quand on parle de transition énergétique, il faut savoir que, effectivement, ces efficiences énergétiques que l'on a appelées depuis une dizaine ou une quinzaine d'années commencent à arriver.
En tout cas, le monde n'est pas linéaire. C'est ce que je retiens aussi de ce que vous avez dit, Samuel Furfari, et que les choses changent en permanence. Cette nouvelle abondance de pétrole et de gaz, est-ce qu'elle est une bonne chose, Samuel Furfari?
Ah oui, hein. Bien entendu. Parce que, justement, on a utilisé ces 40 dernières années pour essayer de modifier la géopolitique du monde, la marche du monde, en se basant sur un prix de l'énergie totalement surfait à cause des quotas de production de l'OPEC. N'oublions pas, nos ennuis ont commencé en 1973 avec la décision de l'OPEC d'imposer des quotas de production. Nous avons vécu 40 années de souffrance où on paye le pétrole de manière scandaleuse, alors que le coût de production au Moyen-Orient est de maximum 2 dollars le baril.
Et le baril qui est aujourd'hui acheté...
Et donc voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système. C'est pas normal que les coûts de production dans un monde ouvert soient si bas et le coût de vente soit si haut. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas correct. Il faut donc que l'on en vienne à une ouverture des marchés du pétrole pour le bien de tout le monde. Parce que tout le monde a besoin d'énergie. Et en particulier les pays les plus pauvres. Moi, je prétends que cette abondance de pétrole va pouvoir permettre aux pays les plus pauvres, qui souffrent justement de ce prix de l'énergie surfait, d'enfin respirer. On dit toujours que dans le monde, il y a énormément de financement pour les énergies fossiles par rapport aux énergies renouvelables, ce qui en absolu est vrai. Mais c'est parce que les pays pauvres sont obligés de financer l'utilisation de l'essence et du diesel, du carburant, tellement c'est trop cher pour eux. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut rompre, et j'espère que cette abondance de pétrole et de gaz va conduire à une diminution du prix du baril qui sera bénéfique pour tout le monde. Et je voudrais en profiter aussi pour dire quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné, c'est qu'aux États-Unis, on a commencé à utiliser du gaz dans le secteur du transport. Il y a tellement de gaz qu'après tout, pourquoi ne pas utiliser du gaz dans le secteur du transport et donc rompre ce lien transport-pétrole-OPEC.
Thierry Bross, alors juste un petit mot de Samuel Fofari à propos des véhicules qui vont rouler au gaz, hein, c'est ce que j'entends. C'est aussi la fin des véhicules électriques, quelque part, avec cette problématique des terres rares et de ces éléments qui sont utilisés dans la fabrication des véhicules électriques, avec la Chine qui est un premier pays producteur de terres rares. Thierry Bross.
Alors, première, la question précédente, les gagnants, c'est effectivement, comme Samuel Fofari l'a dit, les consommateurs. Et effectivement, on va commencer à voir les prix baisser. La question reste ouverte sur le climat. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc effectivement, si on continue à brûler autant de pétrole et de gaz, on va avoir une augmentation de la température de notre planète qui est peut-être pas en ligne avec ce que l'on souhaite. Donc peut-être qu'on arrêtera la consommation de pétrole et de gaz avant qu'on ait épuisé toutes les réserves dans le monde. Pour ce qui est du véhicule électrique, donc votre dernière question, aux États-Unis, oui, il semble qu'on aille vers un véhicule à gaz. En Europe, je suis moins sûr, avec la crise que l'on voit aux portes de l'Europe en Ukraine, l'utilisation du gaz au lieu du pétrole pour les véhicules est quelque chose que la Commission ne va peut-être pas forcément pousser dans les prochains mois.
Le commissaire européen en transport est assez ouvert sur cette question, hein. Mais de toute façon, c'est déjà fait pour le transport maritime, puisqu'à partir de 2020, dans tous les ports européens, il faudra qu'il y ait la possibilité pour que les bateaux se fournissent en GNL. Donc c'est certainement déjà en route pour le transport maritime, pour le transport de fret. Ça va sans doute venir aussi pour le transport du voiture particulière, c'est plus lent.
Alors, les pays pauvres vont pouvoir respirer, c'est ce que vous disiez, Samuel Fofari, face donc à cette nouvelle abondance de pétrole et de gaz, et c'est donc une bonne chose. La question du lien entre cette abondance et la question climatique, Samuel Fofari, rapidement, pour terminer, vous n'êtes pas tout à fait d'accord?
C'est-à-dire que je pense que les impacts climatiques peuvent être mieux maîtrisés par des pays riches que par des pays pauvres. L'année dernière, nous avons eu une catastrophe gigantesque aux Philippines à cause de l'ouragan Aiwan. Le même type d'ouragan vient de frapper le Japon. Ben, on n'en a pas parlé, sauf pour dire que c'était terrible. Donc, un pays pauvre ne sait pas résister au choc climatique. Il faut donc faire en sorte que les pays pauvres deviennent riches pour pouvoir résister au changement climatique. Et c'est le paradoxal. Je prétends que plus un pays devient prospère, plus il prend soin de son environnement. Les pays pauvres n'ont pas la possibilité, n'ont pas les moyens de protéger l'environnement. Ce sont les pays riches qui peuvent protéger l'environnement.
Thierry Brossard, rapidement.
On n'a pas les technologies aujourd'hui de capture et séquestration du CO2, et donc effectivement, on arrêtera, je pense, l'utilisation du pétrole, du gaz et du charbon avant qu'on ait épuisé la ressource.
CO2 pour le gaz carbonique. C'est voilà. La fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Samuel Fofari, qui était en duplex depuis les studios de la RTBF à Bruxelles. Nous les remercions. Samuel Fofari, qui est professeur de géopolitique à l'Université libre de Bruxelles, et dont le dernier ouvrage s'intitule « Vive les énergies fossiles, la contre-révolution énergétique » paru aux aux éditions Texkis, et Thierry Bross, analyste et expert auprès de la Commission européenne et auteur d'un ouvrage pas encore traduit en français, After the US Shale Gas Revolution, aux éditions Techniques, après la révolution du gaz de schiste américaine. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte, avec la contribution de la documentation. À samedi prochain.